Bonsoir, bonsoir. Merci avant tout d'être venus si nombreux ce soir. Donc, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au journal Sud-Ouest et je suis heureux et honoré d'animer cette rencontre avec Jean-Michel Devesa autour de son nouveau livre « Bordeaux, la mémoire des pierres ». Un livre que moi j'ai reçu comme un entrelacs en fait de trois histoires. Première histoire, en novembre 2013, François Lister, 73 ans, revient à Bordeaux.
Excusez-moi, il arrive le 19 avril 2013.
Voilà, c'est ça. Il arrive le 19 avril 2013, il en repart, je crois, début novembre.
Il s'en va le 8 novembre.
Et pendant plusieurs mois, donc, il arpente Bordeaux sur les traces d'une ancienne passion amoureuse. Et il s'établit une relation assez singulière entre lui et une jeune femme, Rosario Paradis. Thésarde en quête d'elle-même, comme vous l'écrivez, et qui s'adonne à la prostitution et se produit occasionnellement dans des pipe-shows pour financer son doctorat. Donc ça, c'est, c'est le premier étage. Deuxième histoire, en miroir à cette première histoire, nous renvoie à l'année 1962, où ce même François Lister tombe fou amoureux de Rosario Santiago, agent de liaison espagnol lié au Parti communiste. Et moi, j'ai vu une troisième histoire dans ce livre, c'est l'histoire d'un écrivain qui orchestre ce récit et qui prend souvent le lecteur à témoin dans son travail d'écriture, dont la fabrique, comme ça, apparaît de page en page. Et cet écrivain, c'est vous, dont on sait peu de choses quand on découvre ce livre, sinon que vous êtes professeur de littérature francophone du XXe siècle et de l'extrême contemporain à Bordeaux 3. Ce sont là les seuls éléments biographiques qui figurent sur ce livre et je suis donc dans une position un peu difficile de devoir présenter un auteur à partir d'éléments assez minces. Alors j'ai pensé que ça pouvait être le point de départ de notre conversation. Pourquoi finalement ce choix, parce que je crois que c'est un choix, d'un relatif effacement biographique, Jean-Michel Devesa?
Parce que ce que j'aime, c'est la littérature et l'écriture, et que ma vie n'a pas beaucoup d'importance, même si elle nourrit mes textes. Vous avez la bonté, Julien Rousset, de me qualifier d'écrivain, je ne le suis pas, je suis un auteur. Nous verrons dans 10 ou 15 ans si l'institution et la réception me considèrent comme un écrivain. Je suis de celles et de ceux qui considèrent que nous ne sommes pas Dieu. À partir de là, notre poésie, notre théâtre, nos romans, nos récits, tout ce que nous faisons est pétri de nous-mêmes et de notre vie, mais le détail n'a aucune importance et j'entends conserver une certaine réserve, une certaine pudeur.
Comment est apparu le besoin d'écrire ce livre? Quand et comment?
Lors d'un dîner autour de Jean-Philippe Toussaint, Denis Mola, que je tiens à saluer, très curieusement m'a demandé si j'avais envie d'écrire un roman pour sa maison d'édition. Je lui ai demandé pour quelle raison il me faisait cette proposition. Il a eu ce mot: Jean-Michel, vous êtes curieux. Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer un homme fin, libre, tolérant et curieux. C'est mon éditeur. Jean-Michel Devesa est advenu à la littérature la semaine dernière, le jeudi 12 mars 2015, avec la publication de son livre. Denis Mola m'a inventé en tant qu'auteur. Je lui suis très reconnaissant. Pour moi, c'est extrêmement important sur le plan littéraire, théorique et critique.
Alors, l'une des trames du livre, c'est votre rapport, enfin, en tout cas, c'est une évocation, on va dire, des transformations de Bordeaux. Est-ce que l'écriture de ce livre a transformé votre rapport à Bordeaux?
Oui, je prends le risque que des proches considère que j'ai retourné ma veste. Je ne suis pas né à Bordeaux, je ne suis pas un Bordelais. J'y ai grandi, j'y ai suivi une partie de mes études. J'ai quitté Bordeaux parce que la vie professionnelle l'exigeait, la vie tout court. Je suis en poste dans cette ville depuis 1997. Mes proches m'entendent râler, rouspéter, Mais je suis un râleur né. L'écriture de ce livre m'a fait aimer Bordeaux. Aujourd'hui, je dis « j'aime Bordeaux ». Attention, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. D'aucuns ici présents ne diront pas que j'ai retourné ma veste. J'aime un Bordeaux qui est un objet de pensée. C'est un objet de pensée. C'est un support d'imaginaire et de rêve. C'est mon Bordeaux. C'est celui que j'ai vécu et que j'ai dans lequel j'ai vécu et dans lequel j'ai grandi. Je suis arrivé, je n'avais pas 6 ans dans cette ville. J'ai habité rue Pierre-Duhem, près des boulevards. Pas beaucoup d'importance, c'est ainsi. J'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs que je reconstruis. J'ai des rêves, j'ai des fantasmes. Il y a des choses que je sais. J'ai appris des choses sur cette ville. Et l'écriture de ce livre qui m'a occupé 2 ans fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce Bordeaux, dans le livre, nous employons le féminin, pour des raisons évidentes, ce Bordeaux-là, je l'adore. Et je l'adore pourquoi ? Parce que l'écriture de ce livre me permet, à bientôt 59 ans, peut-être, de regarder cette ville et de regarder à travers cette ville mon parcours, mon existence, d'une manière beaucoup plus apaisée. L'écriture de ce roman fait que je ne règle pas des problèmes, mais je me sens plus apaisé, plus serein. Ce Bordeaux-là, qui est cette ville magnifique, mais qui est d'abord ma ville, une ville qui n'existe que pour moi, cette ville-là, je l'adore.
Alors, vous restituez notamment la Bordeaux, donc on va employer le féminin. Vous disiez que les raisons sont évidentes, mais peut-être qu'elles mériteraient d'être éclairées. Mais on y reviendra. Mais donc, les années 60 à Bordeaux et la Bordeaux espagnole, la Bordeaux des Capucins, de Saint-Michel. C'est une image de Bordeaux qui a disparu aujourd'hui,
oui.
Qu'on perpétue beaucoup par les témoignages, oui. Y compris, je pense, à certains auteurs comme Louis Aimier, par exemple, qui s'en est beaucoup inspiré. Racontez-nous un peu.
Je vais soulever un bout du voile. Enfant, vous voyez, le détail de la vie d'un auteur, c'est pas très intéressant. Enfant, pour ainsi dire, je n'ai jamais mis les pieds aux Capucins et à Saint-Michel. J'appartiens à une famille pied-noir. Nous avons, de notre point de vue, souffert en arrivant en métropole. Je prends le lexique usité dans ma famille. Ça n'a pas été facile de se situer. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai adoré l'école. Je respirais à l'école. J'ai adoré. Et j'entendais plein de choses. Le Bordeaux républicain espagnol que j'aime et que j'ai voulu non pas faire revivre, mais que j'ai voulu imaginer sur un mode fantasmatique, c'est le Bordeaux républicain espagnol que j'ai connu adolescent et jeune adulte quand je militais. Quand je faisais de la politique dans des organisations d'extrême gauche, c'est à ce moment-là que j'ai fréquenté Saint-Michel, que j'ai vu les anards, les trotskistes, les Mao, les gens du PCE. C'est à ce moment-là. Enfant, nous allions aux puces de temps en temps et sans plus. Donc, à bien des égards, il faut avoir à l'esprit que le souvenir, c'est toujours une construction. Donc, je mentirais en disant qu'en culotte courte, j'ai arpenté Saint-Michel. Non, c'est en jean et en chaussures cloutées dans les services d'ordre que j'ai fréquenté, fréquenté le quartier.
Vous dites que le souvenir est une reconstruction. Est-ce qu'il n'est pas aussi le fait d'une mélancolie liée au temps qui passe ? Vous déplorez beaucoup, là ? En tout cas, c'est ce qu'on ressent en lisant votre texte, la gentrification de Bordeaux. Mais est-ce que le regard que vous portez sur cette évolution n'est pas le regard que vous portez sur un temps qui a disparu, finalement ?
Je laisse à mes proches, et d'abord à ma compagne, le soin de qualifier mon assiette psychologique. Je pense que je suis un mélancolique. Je ne suis absolument pas un nostalgique ni un conservateur. Je suis un mélancolique. Difficile à mon âge de me changer. Je fais des efforts, mais c'est difficile. Je crois que la mélancolie est un ressort de création extrêmement puissant. Mmh. Je crois cela. Je ne veux pas paraître présomptueux de le dire. Je suis un très jeune auteur. Très jeune auteur. L'avenir dira si d'autres livres et d'autres romans seront en mesure de suivre celui-ci. Je crois que la mélancolie est un ressort puissant de création. Moi-même, je suis plutôt mélancolique. Je ne me lamente pas sur le temps passé. Vous voyez, je disais il y a un instant que par ma mère, par mon père, c'est plus compliqué, mais par ma mère, j'appartiens à une famille pied-noir. Le hasard a fait que le premier poste que j'ai occupé à la fin de mes études, c'était à Biskra, dans le lycée Ibn Khaldoun, donc en Algérie. Je suis allé en septembre 80 rejoindre mon poste, non pas avec l'idée que j'allais voir mon pays, c'est pas mon pays. J'ai dit, tiens, je suis curieux d'aller voir le pays où je suis né. Mmh. Une grande différence, mais c'est pas mon pays. Mon pays, c'est la France. Voilà, même si je n'y suis pas né. Donc une certaine curiosité. Je ne suis pas du tout un conservateur, je ne suis pas un nostalgique. Je regarde l'évolution de Bordeaux sans me plaindre. Oui, j'emploie le mot de gentrification. Mon éditeur a accepté d'ailleurs que lorsque nous avons corrigé les épreuves, le second jeu d'épreuves, nous avons rajouté à la fin du livre, ça ne nous a pas échappé, une petite phrase indiquant que la gentrification se poursuit parce que notamment un certain nombre d'évocations, de descriptions du quartier Saint-Michel ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. J'ai écrit ce livre, on y reviendra peut-être, le premier jet durant l'été 2013. La place et tout le quartier étaient en chantier. Mmh. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc cette gentrification, c'est pour moi le cours de l'histoire. Cette histoire ne me plaît pas beaucoup, mais c'est le cours de l'histoire. Et si tout à l'heure, nous parlons un peu engagement et politique, je pourrais affiner ma vision des choses. Je pense qu'il ne sert strictement à rien quand... un train à grande vitesse est lancé, même si la chose déplaît, il ne sert à rien, si ce n'est à jouer au héros, que de vouloir l'arrêter. Ce qui est peut-être plus malin, c'est de prendre le train et d'essayer de faire en sorte que dans la rame, il se passe des choses intéressantes. Ça, c'est ma position. Donc aujourd'hui, Bordeaux évolue. Si vous m'accordez une minute de plus, Julien Rousset, je dirais que c'est l'évolution de toutes les grandes villes en Europe. C'est-à-dire des cœurs de cité qui deviennent des musées, oui, ça s'appelle la gentrification, des cœurs de cité très beaux, qui reçoivent beaucoup de touristes, où l'on vit le jour, mais la nuit, ce sont des déserts. Toutes les grandes villes de France et toutes les grandes villes d'Europe connaissent cette évolution-là. Est-ce que ça me plaît ? Pas trop. Est-ce que ça me déplaît souverainement ? Non, j'habite Bordeaux.
Et par ailleurs, il y a dans ce texte des formules aussi assez acides sur la Bordeaux bourgeoise, la Bordeaux classique. Vous parlez d'un petit Versailles dans corseté, c'est ça, dans un corset de pierre. Je n'ai plus la formule en tête, mais la formule est assez acerbe. Donc finalement, la Bordeaux qu'on présente souvent dans les cartes postales, ce n'est pas non plus...
Si je vous réponds comme un universitaire bien formé et bien poli, je dirais que la formule s'inspire d'une formule de Victor Hugo. Parce que Victor Hugo est venu à la fin des années 1840 sur la route d'Espagne, il est passé par Bordeaux, il est resté 2 jours. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 20 et le 21 juillet, donc il fait beau à Bordeaux, hein, au mois de juillet. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Cette ville... » Il y en a deux dans cette ville. Il y a Versailles, qui est magnifique et grandiose, et il y a Anvers. Et toute la tension entre ces deux villes, c'est Versailles qui est en train de dévorer Anvers. Et le rêve de Victor Hugo, nous sommes, je crois, en 1843, mon antisèche me rafraîchit la mémoire. En 1843, Victor Hugo dit, ben, grosso modo... le Bordeaux moyenâgeux va être dévoré par cette ville patricienne. Mm-hmm. Bon, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu Stendhal, j'ai lu Hölderlin, j'ai lu Mauriac, j'ai lu Solers, et avec tout ça, je fais mon miel.
Alors, vous parliez à propos de l'évolution de la ville, du cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, il n'est pas toujours favorable aux histoires d'amour, et c'est finalement aussi l'un des sujets de ce livre, le temps qui passe et la passion amoureuse. Le temps qui est dommageable à deux titres, la passion amoureuse, d'une part parce que les histoires d'amour, elles s'étiolent, mais aussi parce qu'une histoire d'amour, il faut qu'elle ait lieu au bon moment. Et finalement, le malheur de François Lister, c'est qu'en 62, ce n'était pas le bon moment.
Oui, c'est ce que je pense. Je le pense aujourd'hui. Nous nous serions rencontrés il y a 20 ans. J'aurais été incapable de le dire, de le formuler ainsi. Ça fait quelques années que nous nous connaissons, Julien. Vous m'avez interrogé pour Sud-Ouest il y a longtemps. L'existence, mes histoires d'amour, ma relation amoureuse qui a 10 ans aujourd'hui, tout cela m'a appris que rencontrer l'autre suppose que la rencontre se passe au bon moment. Beaucoup d'histoires ne vont pas à terme, tournent mal, etc., etc. Pas simplement parce qu'il y a l'usure de la relation. Hein. Est-ce que la relation amoureuse dure 3 ans, ou 2 ans, 6 mois, ou 4 ans, enfin, qu'importe, il y a l'usure du temps, mais aussi il faut rencontrer l'autre au bon moment. Il faut être prêt à la rencontre, il faut être prêt à accueillir l'autre, il faut que l'autre soit prêt ou prête à vous accueillir. Et cela, ça dépend ni de l'un ni de l'autre. C'est le hasard.
Il faut saisir le kairos.
Il faut saisir le kairos, c'est-à-dire, de mon point de vue, hein, c'est ma lecture du kairos, cette notion des Grecs anciens, c'est ce moment qui abolit le passé, le présent, le futur, c'est le moment. C'est le moment où tout est possible. Voilà, le moment où tout est possible. Et si vous me permettez... j'ai beaucoup de défauts, les étudiants qui sont dans la salle et qui me subissent d'année en année le savent. Parmi ces défauts, je suis plutôt lacanien. Donc je considère que je considère qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que le rapport à l'autre est illusoire. Eh bien peut-être, je me contredis, une histoire d'amour qui marche, il faut y travailler, hein. Mais une histoire d'amour qui marche, c'est une histoire qui commence parce qu'il y a eu le kairos, parce qu'il y a eu cet instant où un homme, une femme, deux hommes, qu'importe, deux êtres, se sont peut-être rencontrés. En temps normal, nous ne nous, nous rencontrons jamais, nous coexistons, nous cohabitons.
Et alors, François Lister, il revient à Bordeaux, mais vous dites vous-même que l'histoire n'est pas linéaire, mais elle n'est pas non plus circulaire. Donc finalement, il revient à Bordeaux, pourquoi ?
Pour embrasser la seule femme qu'il puisse raisonnablement embrasser à son âge. Il a 73 ans.
Il a 73 ans.
C'est mon accent espagnol, même si mon père était espagnol et une partie de ma famille l'est toujours, mon accent espagnol est épouvantable. C'est la novia de la muerte. À 73 ans, si l'on est, je ne dis pas raisonnable, je ne veux pas tenir des propos puritains, austères, c'est pas cela, mais pour lui, la seule fiancée qu'il puisse étreindre, c'est la mort. Donc il doit mettre ses papiers en ordre. Il doit mettre ses papiers en ordre. Il doit se réconcilier avec sa jeunesse, avec cet amour, celui de Rosario Santiago, qui était un amour platonique, il doit régler ses comptes avec l'existence. Et à tort ou à raison, lui qui a quitté Bordeaux le 8 novembre 1962, ça fait 51 ans qu'il n'est plus dans cette ville, il éprouve le besoin, depuis plusieurs années, mais il n'est pas passé à l'acte, il éprouve le besoin de revenir là où il a aimé et d'essayer de trouver une trace de cet amour. Et à travers ses traces, de trouver un peu de sa jeunesse. Il ne veut pas remonter le temps, il n'est pas fou, il n'est pas délirant, mais de trouver des traces. Bon, ces traces, elles ne sont plus là, il ne va pas les trouver, et donc il faudra un temps de gestation, c'est très symbolique, 19 avril, 8 novembre, éventuellement je peux donner les clés,
oui.
19 avril, parce que c'est tout simplement le 19 avril, c'est la veille de l'exécution, le 20 avril 1963, dans la prison de Carabanchel du dirigeant communiste Julián Grimau. Il a été fusillé à 6h du matin le 20 avril, donc je fais venir mon personnage la veille, et je le fais partir le 8 novembre, parce que le même Julián Grimau a été arrêté dans un autobus à Madrid par la police politique le 7 novembre. Donc je le fais quitter Bordeaux au lendemain de l'arrestation de Julián Grimau. C'est très symbolique, mais par rapport à la relation de François Lister et Rosario Santiago, ça a un peu de sens.
Vous disiez qu'il vient chercher des traces. La ville, elle est porteuse de traces, malgré tout. Vous dites que les traces n'existent plus.
Beaucoup de traces ont disparu. Il reste des traces, mais les traces sont muettes. Parce qu'une trace, une empreinte, ce n'est pas un signe. Et c'est le regard que nous, les humains, portons sur les traces qui faisons des traces, des signes. Donc, les choses sont simples. Par exemple, vous allez... il y a un bar. C'est d'ailleurs un ancien du groupe Art 314 qui le tient. Vous allez à l'Abreuvoir. Mes étudiants qui ont 20 ans ici, ils vont à l'Abreuvoir. Ça ne leur parle pas. Des amis de mon âge, nous allons à l'Abreuvoir. Nous songeons à la Sangria. Le restaurant espagnol La Sangria. Et là, cette trace-là nous parle. Alors que pour les étudiants qui sont ici, cette trace est absolument muette.
Alors, au plan de l'écriture, il semble que vous ayez choisi une écriture qui s'apparente un peu à un work in progress. C'est-à-dire que souvent, voilà, vous faites part de la construction du texte. Pourquoi ce choix ? Si tant est que ce soit un choix, d'ailleurs, peut-être que...
C'est un choix. C'est un choix. Et c'est un choix qui m'a beaucoup préoccupé. Et j'en ai énormément discuté avec mon éditrice Elsa Grybinski, que je salue, qui est dans la salle. J'en ai beaucoup parlé avec Elsa, dans la mesure où je crois, je ne vais pas édicter une règle, mais pour moi... Je vais continuer à écrire, enfin, je le souhaite et je l'espère. Pour moi, il ne faut absolument pas aujourd'hui, si l'on est un auteur contemporain, si l'on adopte la posture de l'auteur contemporain, ce que je vais essayer de faire, il ne faut absolument pas verser dans la représentation, dans le miroir qu'on promène le long des routes, etc. etc. C'est-à-dire, si vous m'accordez une formule... simple, voilà, je raconte une histoire d'amour. Alors je vous dis, je vais vous raconter une histoire d'amour. Elle est très banale. Il y a un vieux monsieur qui rencontre une jeune femme. La jeune femme, elle a un problème de représentation paternelle. Il se va se passer des choses. C'est pas nouveau, hein ? Ben, je vais vous raconter ça. Ce n'est pas nouveau. Il y aura plein de clichés, plein de stéréotypes. Je vais essayer de ne pas être dupe de ces clichés, de ces stéréotypes. C'est pas très intéressant, mais je vais quand même m'atteler au récit de cette histoire un peu banale pour qu'elle vous touche. Attendu que cette histoire, je ne la raconte pas à ma compagne ou à mes étudiants, mais je la raconte à des lecteurs, c'est-à-dire des inconnus. Hein ? Si on est en position d'auteur, on écrit non pas pour soi ou pour les siens, mais pour des inconnus. Et il s'agit de toucher des inconnus, les émouvoir, les intéresser, éventuellement les aider à les aider. Voilà. Et j'ai envie de faire tout ça et de dire, je ne vais peut-être pas y arriver, c'est sûr et certain que je ne vais pas y arriver, mais je m'y attelle, je m'y mets, il y a François Lister, ta-ta-ta-ta-ta-ta, je n'y arrive pas, j'y arrive, bon, ben maintenant c'est fini. Et pour moi, c'est ainsi que l'on peut, pas moi, hein, je ne suis pas un génie, c'est ainsi qu'on peut, avec d'autres, essayer de jeter les bases d'une forme contemporaine du roman qui ne soit pas dupe de la représentation. Et je crois ne pas être dupe de la représentation à l'époque des écrans. C'est à la fois artistiquement, littérairement et politiquement indispensable.
Vous dites, il y a un moment, il faut dire, voilà, c'est fini. Ça a été difficile pour vous d'arriver à cette étape où finalement on ne retouche plus son texte ? Le livre,
l'architecture,
c'est un arrachement ou finalement c'est un soulagement ?
Je vais vous répondre en deux temps. L'architecture du roman n'a pas été affectée par la rédaction. C'est-à-dire, elle est très concertée. Elle est très concertée. C'est vraiment... il y a les trois niveaux, le peu de réalité, la mémoire, la projection fantasmatique. Et ces trois niveaux, c'est une construction sérielle. Je me suis amusé... vous avez trois niveaux. Chaque chapitre, il n'y a que trois paragraphes. Pas quatre, pas deux, trois. Uniquement trois. Tout se répond. Tout se répond. C'est un mécano. Bon. Et donc, la fin de l'histoire qui est ouverte, elle est ouverte. La fin de l'histoire, je l'avais dès le début. C'est-à-dire qu'il fallait raconter la traversée de Saint-Michel par François Lister. Il arrive, il s'en va. Je suis cinéphile. C'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans le cinéma de Wim Wenders. Les personnages de Wim Wenders, tenez, prenez Paris, Texas. Vous avez un type qui arrive comme ça, là. Il se passe quelque chose et puis il s'en va. Bon, c'est quelque chose que je considère comme étant une structure narrative contemporaine. C'est-à-dire, tenez, on peut faire de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour moi ? Un procès sans sujet. Nous ne faisons pas l'histoire, même pas les masses, sans sujet ni fin. Sans finalité et sans fin. C'est un procès. J'ai envie de raconter des histoires de ce type et organiser de cette façon. Alors, la relecture, non, la relecture... Elsa, mes proches, savent que, d'une manière générale, bon, ce n'est pas à moi de le dire, mais je suis, comme beaucoup de collègues, comme nous tous, je suis dans une lutte contre le temps qui est une course et une lutte perdue d'avance. Nous essayons de distraire un petit moment pour notre recherche, pour nos passions, pour notre vie. C'est très compliqué. Donc, non, j'aurais voulu, par exemple, je rêve, hein, j'aurais voulu laisser le deuxième jeu d'épreuve dormir un an et ne reprendre dans un an, en 2016, le jeu d'épreuve pour être sûr qu'on n'a pas laissé une coquille ou bien que, ma foi, l'absence de virgule dans tel paragraphe, cette absence est pertinente. Bon, donc, je doute. Parce que de mon point de vue, le plus grand luxe que je pourrais avoir, c'est d'avoir 3 mois ou 6 mois pour écrire le premier jet d'un manuscrit. Et c'est impossible.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez choisi de parler de Bordeaux au féminin, en disant que les raisons vous en paraissaient évidentes. Toutefois, est-ce que vous pouvez nous les préciser ?
Bah, c'est-à-dire que Bordeaux est une femme, parce que mon personnage... François Lister bute, il bute, au sens où Lacan dit que l'on bute contre le réel, il bute contre une femme. Cette femme, c'est Rosario. Il bute, il a buté en 60-62 contre Rosario Santiago parce qu'il l'aimait. Il est possible que cette femme... éprouver les mêmes sentiments que lui, mais pour des raisons de devoir politique, elle s'interdit l'amour. Et donc, pendant 2 années, François Lister a éprouvé un amour et a vécu un amour platonique avec cette femme. Et il quitte la ville parce que, quand il apprend l'arrestation de Julián Grimau, il n'a pas envie de consoler une veuve morganatique. Dans sa jalousie, dans sa psychologie, il est à peu près certain que la femme qu'il aime, quand elle aide à franchir clandestinement la frontière à Julián Grimau ou à d'autres dirigeants du Parti communiste, il est absolument persuadé qu'elle couche avec ces hommes qui sont des dirigeants prestigieux, etc. Et elle-même ne cesse de dire à François, mais s'il faut coucher, je couche. Pourquoi ? Parce que nous avons une bataille. Nous avons une bataille à gagner. Il faut battre le franquisme, il faut abattre le franquisme, il faut faire la révolution. Alors, nos personnes, bon, il bute. Il revient 51 ans plus tard, il va au Café des Arts, et là, au Café des Arts, il y a une jeune femme, elle ne ressemble pas à Rosario, elle est Rosario, elle est. Elle n'est pas au PC, elle fait une thèse d'histoire de l'art, mais c'est elle. Absolument elle. Alors, vous pouvez dire que j'avais peut-être abusé sur le lagavuline quand j'ai songé à l'écriture du roman, mais je pars de l'idée que dans cette ville, il y a une jeune femme qui est là. Voilà. Alors, je me refuse à dire ce n'est pas une incarnation, ce n'est pas un spectre. Non, voilà. Elle était là en 2013. Elle était là en 1962, et puis je vais plus loin. Goya l'a peut-être peinte, c'est la laitière de Bordeaux. Voilà, c'est elle. Il y a une femme qui est là. C'est tout. Alors évidemment, cela s'arc-boute et essaie de se justifier avec la physique quantique que je lis. J'observe d'ailleurs qu'un grand nombre d'écrivains que j'aime, que j'apprécie, certains... je peux les connaître, il y a comme une problématique d'époque aujourd'hui, c'est-à-dire que la lecture de Planck, de Max Planck, et pas seulement de lui, la lecture de la physique quantique, en tout cas, à mon avis, nous interdit de penser que nous vivons dans un univers, notre expérience sensible et notre intellection nous incitent à penser que nous sommes dans un univers, l'hypothèse que nous évoluions dans un multivers est une hypothèse assez raisonnable, selon moi, mais qu'importe, pour un artiste, c'est voilà un autre puissant ressort de création. Bon, et j'observe que depuis 5-6 ans, il y a des écrivains contemporains importants qui exploitent ce filon. Je me permets une remarque, c'est quelqu'un que nous connaissons. Philippe Forest a publié Le chat de Schrödinger il y a très peu de temps, et j'avais indiqué à Philippe que je ne lirais pas son livre tant que le mien ne serait pas achevé, parce que je ne voulais absolument pas être influencé par son livre. Effectivement, j'ai lu Le chat de Schrödinger une fois la première lecture du manuscrit achevée, et quand Elsa, Denis Mola et moi-même avons considéré que le livre était terminé.
Vous parliez des sciences. Il y a beaucoup de considérations aussi dans ce texte sur la bourgeoisie, les intellectuels, l'évolution de la ville. Quelle est la part des sciences humaines dans la gestation d'un roman comme celui-ci?
Alors, nous en avons parlé, vous et moi, et, si vous voulez, entre l'âge de... À partir de 15 ans, j'ai milité à l'extrême-gauche. J'étais sur des positions communistes et marxistes-léninistes, ce qui signifie que, par exemple, j'ai appartenu à la dernière génération étudiantine proche de Louis Althusser. Je conserve une correspondance avec lui chez moi. J'ai bien connu Hélène Rittmann. Je n'entretiens pas un rapport aux sciences humaines. Ma culture est une culture marxiste. Aujourd'hui, je continue d'essayer de lire le monde, non pas en marxiste, en marxien, en utilisant des choses qui me paraissent utiles. Par exemple, je ne suis pas normalien, je n'ai jamais été l'élève de Louis, mais j'ai l'habitude de dire que c'est mon maître. Ce que je retiens des textes de Louis, c'est par exemple la lecture symptomale. Dans ma vie privée, comme dans ma vie publique, comme dans la lecture des textes, j'essaie d'appliquer une lecture symptomale, de déchiffrer les choses comme ça. Voilà. Donc, oui, les sciences humaines, bien sûr, mais comme nous disions dans les années 70, de quel lieu je parle et d'où je viens? Je viens du marxisme.
Alors, justement, parlons d'engagement, puisque c'est aussi l'un des sujets du livre. Le personnage, je crois, dit qu'il est revenu de tout. En tout cas, qu'il est revenu de la politique, pardon. Il ajoute même, heureusement pour moi. Il dit « Je rechignais à m'imprégner de cette leçon que les événements prodiguent, selon laquelle le sort d'une collectivité ou d'un groupe prend le pas sur celui de l'individu. » Là aussi, on a l'impression que la notion d'engagement en 51 ans a radicalement changé. C'est très daté comme conception de l'engagement. Très inscrit dans une histoire, en tout cas.
Oui, tout à fait. Comment dire, j'ai envie... Il est bon parfois de se contredire. Il est bon de se contredire, et donc il est bon, alors que j'ai affiché tout à l'heure une farouche réserve à l'endroit de la moindre confidence, de lâcher deux, trois petites choses personnelles. Bon, à l'heure actuelle, je n'appartiens à aucun parti politique, je ne suis pas syndiqué, je ne veux pas être encarté, je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, bon, voilà le lieu d'où je parle. Bon, maintenant, à bien des égards, j'ai le sentiment de militer tous les jours. C'est-à-dire de militer dans la sphère privée, dans mon travail, dans la façon dont je conçois mon métier, et puis avec des gestes simples. Par exemple, à l'université, certains me prennent pour un gentil professeur. J'éteins les lumières dans les salles, aux toilettes, dans les couloirs. J'éteins, voilà, je milite. Mais je vais être plus sérieux. Je vais être plus sérieux. Je suis persuadé. Ce que je vais faire est facile, mais je ne veux pas produire un effet facile. Voyez, le 7 janvier, il y a deux mois de cela, pendant trois jours, j'ai été incapable de travailler. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai passé trois jours fasciné, médusé devant mon écran d'ordinateur pour suivre ce qui se passait. Bon. Et j'ai eu le sentiment que nous étions entrés dans une nouvelle période historique, pour parler comme les militants marxistes auxquels j'ai appartenu. C'est une nouvelle période. Et pour moi, c'est une période où désormais tout est possible, y compris et surtout le pire. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il y a un attentat à Tunis. Et entre le 7 janvier et aujourd'hui, alors qu'il y a eu en France une émotion formidable, qu'est-ce qui est advenu de cette émotion ? On verra dimanche. On verra dimanche. Je suis désolé, Frédéric, mais on verra dimanche le résultat de cette émotion. Bon. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous voyez, les propos, là, je milite. Je milite. Je suis un acteur. Je suis un acteur politique, un acteur social. Mon personnage, je lui ai prêté cette formule. Il en est revenu de la politique, fort heureusement. Pourquoi ?
Pourquoi heureusement ?
Fort heureusement parce que quand j'avais 18 ans, et je crois que toutes les générations militantes marxistes, toutes, ont fait cette expérience. En tout cas, moi, à 18 ans, je ne comprenais pas qu'une idée, aussi généreuse fût-elle, puisse être réversible. À 18 ans, je n'avais pas lu Blanchot, je n'avais pas lu ce texte de 49, Le Tréhamon et Sade. C'est-à-dire qu'une idée qui, à un moment, à un temps N de l'histoire, est un levier d'émancipation, la même idée peut devenir l'instrument de torture. Et que, grosso modo, tout ce que l'on explique en se lamentant, en disant « ils ont trahi la révolution, ils ont trahi », comment se fait-il que des militants généreux, et sincères puissent se transformer en bourreaux ? Comment ? Bon, à 18 ans, j'avais une vision manichéenne du monde, de l'histoire et de la vie des idées. Il y avait le bien, il y avait le mal. Cette idée d'une réversibilité, ben non, non, non. Or, une idée n'est pas ad vitam aeternam, négative ou positive. Et François Lister a appris cela. Il a été déniaisé par l'histoire quand, ne voulons pas consoler Rosario, il part travailler où ? Dans des pays du tiers-monde de gauche. Et il va travailler en Europe de l'Est. Ben, l'histoire le déniaise. Il s'aperçoit que, par exemple, en Europe de l'Est, ceux qu'on espionne le plus, ce ne sont pas les ennemis capitalistes, mais ce sont les compagnons de route, hein, les camarades qui viennent apporter généreusement leurs bras, leur cerveau pour aider la révolution, c'est eux qu'on flique. Ça m'est arrivé en Algérie, où j'ai été fliqué par la sécurité militaire pendant trois ans.
Vous disiez « je milite » encore, mais c'est un engagement qui paraît coupé d'une dimension collective, en fait. C'est un engagement plus à l'échelle d'un individu aujourd'hui.
Oui, mais c'est aussi, par exemple, c'est aussi la leçon que je tire d'Althusser. Il faut écrire, il faut faire, et il faut faire confiance aux effets de ce que l'on a écrit et de ce que l'on fait. Il a détourné une phrase d'André Malraux dans le tome 1 des Antimémoires, « L'avenir dure longtemps ». On a des photographies qu'on connaît de Louis à l'ENS, où à la craie, il a marqué « L'avenir dure longtemps », des photos célèbres. Ben oui, l'avenir dure longtemps. Il faut faire, il faut écrire. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être que cela portera ses fruits. Il faut être patient. Tout le contraire de notre société aujourd'hui, où nous sommes à flux tendu, dans l'urgence, on veut des résultats, etc., etc. Tout le contraire de cela. Il faut du temps.
Alors, c'est un livre qui est un texte qui est très, très, très enraciné à Bordeaux, très ancré à Bordeaux. Alors, question extrêmement concrète et un peu premier degré, mais vous l'avez écrit où ? Vous l'avez écrit chez vous ou vous l'avez écrit comme ça dans des lieux, je pense au Café des Arts ou... Puisque c'est quand même l'un des théâtres de, cette histoire.
Les gens qui me connaissent bien, et d'abord ma compagne, savent que je déteste le bruit. C'est absolument terrible. Je suis absolument incapable de lire dans le bruit, lire au café. J'adore le Café des Arts, mais je n'y lis jamais. Et alors écrire, il est hors de question que j'écrive dans un lieu public. Même avec les boules quies, ça me perturbe. Non, j'écris chez moi, devant mon ordinateur. Et je vis avec une sainte parce que quand j'écris, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de repas. Voilà, tant que j'écris et que je ne m'écroule pas, bah, ça peut durer 10 heures, 12 heures. Avec des choses, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Mais quand vous faites votre travail convenablement à l'université, le seul moment d'écrire, c'est pendant les vacances. Bah, on ne part pas en vacances, on écrit. Voilà.
D'accord. Donc jamais in situ, en tout cas. C'est pas, vous n'écrivez pas les lieux que vous décrivez. C'est des reconstructions à distance.
Alors, merci Julien. En ce qui me concerne, je pense que vous êtes persuadé que mon esthétique n'est absolument pas une esthétique réaliste et naturaliste. Mais
non.
Du tout.
Non, non.
Du tout. En tout cas, j'espère que les lecteurs le sentiront. Mais j'ai besoin d'un point d'ancrage. Si vous m'accordez une seconde, pour moi, la littérature, ce n'est pas la vie. Pas plus que le cinéma. Le cinéma, c'est la vie. Quelle bêtise. La littérature, c'est la vie. Non, 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 non. Les arts, le cinéma, la littérature nous parlent de la vie. Pas pareil. Et puisque j'ai la folie, à travers des histoires, de vous parler de la vie, très modestement, j'ai besoin de points d'ancrage. Et ça, c'est très compliqué. D'où ma réserve, tout à l'heure. Par exemple, dimanche dernier, j'étais avec Jacques Abeille. Nous étions avec Jacques Abeille, un très grand écrivain. Jacques a lu mon livre. Et avec beaucoup de gentillesse, Jacques me dit quand même, ton François Lister, il a beaucoup de moi. Ben oui, parce que les traits physiques de mon personnage, c'est Jacques. Et puis, les lieux existent. Je suis allé les voir. Je les ai photographiés. Moi qui ne suis pas photographe, je les ai photographiés. Non pas avec l'idée de les reproduire tels quels. Reproduire tels quels. Enfin, nous ne sommes pas Dieu pour reproduire les choses, vraiment. Mais j'ai besoin d'un point d'ancrage. Voyez, par exemple, je vais exagérer. Évidemment, j'exagère, mais cette ligne de démarcation entre les livres nourris du vécu, et puis ceux qui seraient de la plus grande littérature parce que œuvre d'imagination. Enfin, je voudrais rencontrer quelqu'un qui imagine tout, à partir de rien. Je voudrais quand même, ça m'intéresserait. C'est Dieu le Père. Voilà, c'est Dieu le Père. On imagine, mais on imagine, il y a toujours un point d'ancrage, il y a quelque chose. Et en ce qui me concerne, j'ai besoin d'un point d'ancrage. Et du coup, la difficulté, c'est que je ne voudrais pas que mes lecteurs et que certains de mes lecteurs disent « Tiens, je suis dans le livre !» Mais non, tu n'es pas dans le livre. Tu n'es pas dans le livre. « Ah, mais c'est mon tatouage !» Ah oui, ça c'est vrai. C'est ton tatouage. C'est vrai. Mais ce n'est pas toi qui est dans le livre. Parce que j'ai besoin de points d'ancrage et je procède par collage. Vous savez que j'aime le surréalisme. Mmh. Par collage. Donc je prends des éléments, il y a mon imaginaire, il y a ma pensée, et en fait, mon esthétique, ce n'est pas à moi de dire si j'ai réussi, je ne veux pas être un romancier réaliste ni naturaliste, j'aimerais être un modeste auteur racontant des histoires qui produisent du réel et de la réalité. C'est-à-dire que Ma Rosario, c'est un personnage romanesque. Eh bien, monsieur, madame, en me lisant, ils vont se raconter leur histoire. Ils pourront très bien se détacher de la description physique que je fais de Rosario. Ils pourront... Tiens, en analyse, on a un mot. Ils pourront associer. Ils pourront associer. Voilà, mon ambition, c'est cela. C'est-à-dire une littérature, on disait dans les années 70, de production. Production textuelle, de production d'images. C'est ce que j'aimerais faire.
François Lister, je crois, dit à un moment du texte qu'il est un Bordelais de l'étranger. Je crois que oui. C'est ça. Je trouve que quand on lit votre roman, on sent finalement, du début à la fin, une forme d'étrangeté à soi-même, à travers justement l'étrangeté à la ville. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette impression ou,
Oui, tout à fait. Là, j'ai prêté à Lister des propos et des sentiments, des propos que je tiens et des sentiments que j'éprouve. Je marque un temps pour que... s'exprimer, et quand on enseigne, nous jouons la comédie quand on enseigne, et quand on essaie de convaincre un auditoire, il faut jouer aussi la comédie, non pas pour tromper l'auditoire, mais pour créer les conditions de l'écoute la meilleure. Je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, mais comment dire, imaginez un gosse qui va avoir 6 ans en 1962, qui appartient à une famille pauvre, élevé par la grand-mère quasiment illettrée, qui vit l'arrivée à Bordeaux comme un déchirement, comme un déracinement. Ils ne cessent de dire qu'ils sont français, qu'ils sont même plus français que les Français. J'ai entendu ça toute ma vie. Nous sommes plus français que les Français. Ils arrivent ici et ils sont très mal accueillis. Il faut dire les choses, très mal accueillis. Pas les plus à plaindre. Les harkis n'ont pas été très bien accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Bon, très mal accueillis. Et vous avez un gamin qui comprend rien, qui comprend rien quand sa grand-mère lui dit « Tu sais, si à l'école on dit que tu es un Algérien, tu dis « c'est pas vrai ». Nous, nous ne sommes pas des Algériens, nous sommes des Algérois. » Non, les gamins de 6 ans, qu'est-ce qu'il comprend? On n'est pas Algérien, on est Algérois, mais je suis né où? Bon, c'est pas facile. Tenez, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, je me répète, mais c'est un effet rhétorique. Quand vous allez chercher un papier, ça s'est un peu calmé ces temps-ci. Je vais chercher un papier, je suis adulte. Un acte de naissance. Où est-ce que vous êtes né ? À Alger. Ouh, c'est compliqué. Dites que vous êtes né à Washington. C'est un petit peu différent. Vous avez des expériences là. Bon, alors, laissons cela. Il y a quelque chose de plus qui est Bordeaux. Bordeaux, ce n'est pas la France. Bordeaux, c'est une île. Vous avez le fleuve et vous avez Bordeaux adossé à la forêt et à l'océan. Et de l'autre côté, vous avez la France. D'ailleurs, c'est si vrai, c'est que lorsque les armées royales arrivent, eh ben, les Bordelais sont avec les Anglais pour les accueillir à Castillon à coups de canon. Une réalité, ça. Bon, ce n'est pas pour rien qu'il faille attendre que Napoléon Bonaparte aille en Espagne avec son armée, qu'il arrive ici en disant « Comment, il n'y a pas de pont, il faut me construire un pont. Ça va prendre quelques décennies. » Bon, ce que je viens de dire... qui peut blesser, heurter, etc. Solers, pour ne citer que lui, l'explique très bien dans tous ses livres. Il y a ici un lieu Solers va même jusqu'à dire une civilisation, il y a un lieu, il y a une culture, qui est une culture matinée d'une culture anglo-saxonne et d'une culture espagnole. Il y a les deux. Souvent, on ne retient que la culture anglaise, anglo-saxonne, mais il y a les deux. Et depuis des siècles. Mon université, c'est l'université Montaigne. Bon, et très bien, mais la mère de Montaigne, Antonia López de Villanueva, d'où vient-elle ? D'Aragon. Et c'est une juive séfarade. Et pourquoi vient-elle ici ? Elle vient ici parce qu'il y a l'Inquisition. C'est-à-dire que les villes du Sud-Ouest, pas seulement Bordeaux, mais les villes du Sud-Ouest, sont des villes qui, depuis des siècles, accueillent les exilés espagnols. Et à Bordeaux, c'est le cas, depuis Montaigne. Je l'ai dit pendant le début du lancement du livre, en 1962, il y a 60 000 Espagnols, 60 000 Espagnols qui vivent à Bordeaux. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 8 000 à peu près. Bon, 60 000 en 1962 pour une ville à la louche de 250 000 habitants, un quart de la population. Alors, bien sûr que notre ville est de culture anglaise, mais elle est de culture espagnole, de culture ibérique, tout autant.
Je vous remercie d'être venu ce soir si nombreux, si attentifs, si impliqués aussi dans notre échange. Merci surtout à Jean-Michel Deveza. Merci.
Je remercie l'assistance, nombreuse, chaleureuse, attentive et amicale. Je remercie Julien Rousset, qui est un fin lecteur, ce n'est pas une découverte. Et je remercie toute l'équipe Mola et Denis Mola, qui permettent à un vieil homme de devenir un jeune auteur.
Formidable conclusion.